Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Cuba, Chili et Québec. La consolidation de la solidarité anti-impérialiste. C'est le nouveau livre, c'est le premier livre, en fait, de Marcel Henault Jr., historien, qui a fait ses études ici à l'Université de Sherbrooke et qui est animateur également sur nos ondes à l'émission Dichotomie 883, qui est d'ailleurs ce soir. Marcel, bien content de pouvoir te parler aujourd'hui de ton premier livre. Ça va bien?
Oui, toi, bien content d'être parmi vous ici à CFAQ aujourd'hui, de parler du livre. C'est tout qu'un honneur pour moi.
D'abord, félicitations. Hein, on sait que c'est pas évident nécessairement que de publier de nos jours. Et puis,
non, surtout pour un ancien étudiant à la maîtrise. Vite de même, il y a certaines connaissances qui m'ont dit ben, je pense que tu es un des seuls, sans vouloir me vanter, mais tu es un des seuls étudiants qui est sorti de la maîtrise et qui a publié un livre. Fait que déjà, ouais. Comme je t'avais dit tantôt, en dehors de l'émission, faut que je me donne une méchante tape sur l'épaule parce que ça n'a pas été évident.
Non. Donc, ce premier livre-là, dans ce premier livre-là, tu explores un petit peu là, l'échange des idées qui se passe dans les années 60 et 70, mm-hmm. notamment sur les idées anti-impérialistes, les idées révolutionnaires, entre guillemets, okay. Puis son impact, l'impact justement des révolutions à Cuba et au Chili, dans les revues d'idées québécoises okay. ici, en pleine révolution tranquille. Donc, c'est des idées qui sont évidemment très effervescentes, très radicales. Parfois. Peux-tu me parler un peu de ce qui t'a donné envie de raconter, mais pas de cette histoire-là, mais d'explorer un peu ces révolutions-là puis leurs impacts ici au Québec?
Ben, en fait, petite anecdote, tout a commencé par un échange très intéressant avec un de mes anciens collègues ici à la maîtrise en histoire, Michel Morissette. Puis j'ai discuté de mon idée que je voulais le faire à la base, à l'origine, sur le nationalisme québécois qui était trop large.
Ouais.
On va se le dire bien franchement. Mais vite de même, j'en avais parlé. Il me dit ben, pourquoi tu ne serais pas quelque chose qui réunirait deux pays, comme par exemple Québec ou même Cuba. Il y a un ouvrage qui a été fait justement par... j'essaie de me rappeler, là. Ronald Wright ou Donald Wright sur les relations qui existaient entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro à l'époque. Mm-hmm. Il y a un livre qui a été publié, en fait, là-dessus, puis qui est très intéressant. D'ailleurs, il faudrait juste que... Je pense que c'est Three Nights in Havana. Je pense qu'on peut le louer à la bibliothèque ici même à l'université. Bref, fait que tout a commencé par là. Puis aussi, je voulais me donner comme objectif de parler de la Révolution, parce que c'est un concept qui m'a toujours intéressé depuis mon début ici, début de mon parcours académique à l'Université de Sherbrooke en histoire. C'est un concept qui est très intéressant, qu'on ne parle pas assez, selon moi. Puis, petit nota bene, la Révolution tranquille, il faut comprendre, c'est pas une révolution pure et dure dans le sens littéral du terme. C'est de voir comme des avancées de l'économie, de la société, québécoise dans les années 60 et 70. Mm-hmm. C'est pas une révolution qui a entraîné le Québec dans une guerre civile, il faut être très clair.
Non.
Mais avec des événements comme Expo 67, l'apparition d'Hydro-Québec,
ouais.
l'hydroélectricité dans les années 60, l'élection de Jean Lesage au pouvoir en 1959, les insolences d'un frère un tel qui est connu sous son vrai nom, Jean-François Desbiens. Ça, ce sont des avancées, c'est pas une révolution. Mais moi, je voulais explorer la Révolution tranquille dans ce cadre-là. Puis l'adapter dans mon mémoire de maîtrise, puis de voir qu'est-ce qui en sort.
Ouais. C'est surprenant, oui et non, parce qu'évidemment, les années 60-70, c'est un gros bouillonnement d'idées planétaires.
Oui.
Pourquoi est-ce que l'impact de la révolution cubaine, puis après ça, de la révolution chilienne qui arrive un peu plus tard, mm-hmm. Pourquoi c'est elle... Ben, premièrement, est-ce que c'est elle qui s'impose de façon primordiale dans les revues d'idées par rapport à ce qui se passe en Afrique? Puis deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est ces deux-là auxquels les révolutionnaires ou les gens de gauche québécois, l'intelligentsia gauchiste québécoise, pourquoi c'est à ces pays-là ou c'est à l'Amérique latine qu'elle s'intéresse plutôt que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique?
Je vais prendre cette question-là sous deux angles.
Ouais.
Premier angle, il faut comprendre que la révolution chilienne, la voie chilienne vers le socialisme a une place plus prépondérante dans les revues d'idées québécoises que la révolution cubaine. Puis j'en parle énormément dans mon livre.
C'est surprenant,
mais en même temps, on voit ce qui est arrivé avec Fidel Castro.
Ouais.
On se le cachera pas, c'est pas le même Fidel Castro. Ce n'était pas le même Fidel Castro tel qu'on le connaissait dans les années 50 et 60 avec ses mouvements de guérilla, avec le Che comme son compasse, son bras droit, si on veut. Mais il faut comprendre que la révolution chilienne a mené effectivement à la consolidation de la solidarité anti-impérialiste au Québec. Fait que oui, elle a une place plus prépondérante que le reste des autres révolutions, mais l'Amérique latine est couverte plus largement. Je pourrais pas dire pour l'Afrique ni l'Asie d'ailleurs, j'ai pas exploré ça dans les revues québécoises. Moi, je me suis vraiment concentré sur l'Amérique latine. Puis l'autre angle, tu parlais aussi de savoir l'impact que ça a eu, ces révolutions-là au Québec, ben c'est simple. C'est de prendre, ça a un effet miroir. Puis je le dis, c'est un effet miroir que ces révolutions-là ont entraîné dans la Révolution tranquille au Québec. Fait que c'est un miroir qui est apparu ici. Puis c'est aussi le fait que ces militants-là, que ce soit intellectuels comme Raoul Roy, Pierre Vallière, peu importe, militants syndicaux comme Michel Chartrand, entre autres, qui a carrément signé l'acte de consécration du Centre international de la solidarité ouvrière en juin 1975 à Montréal, qui était connu à l'époque comme étant la Conférence internationale de solidarité ouvrière en juin 1975. Des néo-nationalistes comme, Jean Genet, qui était contre, qui était plus contre, là, je ne veux pas trop en dire parce qu'on manque de temps, mais tout ça pour vous te dire que ces révolutions-là ont emmené un nouveau modèle à suivre. Les Québécois, du moins la tranche gauche de l'intelligentsia québécoise, étaient à l'avant-première. Si je cite un des acteurs de la revue intellectuelle maintenant, à l'avant-première d'une révolution qui pouvait aider le Québec à non seulement ériger une société socialiste, mais à refonder complètement le système politique québécois pour le sortir de l'égide anti-impérialiste d'une part anglo-saxonne et d'autre part états-unienne. Dans notre cas, c'était anglo-saxon.
Ouais.
Dans le cas de l'Amérique latine, c'est carrément l'arrière-cour des États-Unis.
Mm-hmm.
Qui ont un ensemble géopolitique qui a été exploité depuis fort, 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 fort longtemps par les États-Unis, depuis l'amendement Platt en 1898 à Cuba. Le Chili, c'est moins le cas, mais l'expérience néolibérale états-unienne s'est imposée de force et dans les coulisses, en coulisses, par Richard Nixon, par la CIA et d'autres multinationales états-uniennes qui ont travaillé de concert avec Augusto Pinochet et sa junte militaire.
Ouais. L'École des Amériques aussi qui formait les dictateurs de demain.
Oui, les Chicago Boys. Boys à l'époque, ça, faut pas l'oublier non plus.
Tu l'as mentionné brièvement, mais je veux revenir parce que je crois que c'est quand même un concept fondamental au cœur de ta thèse. Là, c'est l'effet miroir.
Oui.
Comment tu le définis, mais comment est-ce qu'il se représente? Puis est-ce que cet effet miroir-là, on le retrouve seulement au niveau des idées ou si au niveau des actions des regroupements de gauche, on perçoit quand même des rapprochements entre ce qui se passait en Amérique latine puis au Québec?
Je te dirais un peu des deux.
Okay.
Au plan idéologique, oui, c'est clair. C'est clair que, oui, on peut dire que les échanges étaient somme toute virtuels au début. Je te parle avec Cuba surtout, puis Chili, oui aussi. Mais dans l'échange des idées, parce que c'était, je vais le dire, c'était un péril intellectuel dans le sens que le néo-nationalisme de l'époque, c'était vraiment de redéfinir l'identité nationale du Québec. Et l'effet miroir s'expliquerait, entre autres, par l'instrumentalisation politique des révolutions latino-américaines, notamment cubaines et chiliennes. Je parle de la révolution de Castro et de l'élection de Salvador Allende au Chili. Ça, c'est une chose. L'autre chose, les actions, comme je te l'avais dit tout à l'heure, ça a mené à la concrétisation d'organismes non gouvernementaux de solidarité anti-impérialiste. Mm-hmm. Que ce soit les CPS, les Chrétiens pour le socialisme, le Comité Québec-Chili, puis Jean Ménard est, on pourrait dire, le porte-parole principal du Comité Québec-Chili. Un travail concrètement sur le terrain. Le plus gros travail qui a été fait, c'est sans doute par le Comité Québec-Chili à l'époque.
Mm-hmm.
Il y a aussi le CSI, qui est le carrefour de solidarité internationale, mené par Judith Bergeron, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années pour mon mémoire de maîtrise. Puis elle, c'était plus un travail d'observation, de recul. Bon, un peu manque de pragmatisme sur les bords, mais c'était vraiment juste à titre d'information. Ensuite, on a eu le secrétariat Québec-Amérique latine. Et enfin, j'avais parlé du CISO tout à l'heure, c'est vraiment l'aboutissement, si on veut, de la solidarité anti-impérialiste au Québec. Fait que oui, un peu des deux, idées et actions, mais il faut prendre en tête que la plupart de ces intellectuels-là n'ont pas pu voyager en Amérique latine. Puis je voulais prendre un peu leur témoignage au départ, de savoir si vraiment ils ont pu aller à Cuba et au Chili. Oui, Michel Chartrand y a été, ça c'est clair. Raoul Roy a pu aller à Cuba. Mais il n'y a pas beaucoup de ces intellectuels-là qui, malheureusement, n'ont pas pu aller à l'Amérique latine.
Évidemment, pour nos auditeurs et auditrices qui connaissent un peu moins l'histoire des révolutions, surtout des révolutions latino-américaines, bon, Cuba, je pense qu'on la connaît quand même relativement bien, mais qu'est-ce qui différencie les deux révolutions qu'il y a eu, anti-impérialistes qu'il y a eu à Cuba et au Chili?
Ben, c'est simple. La révolution castriste était une guérilla contre Fulgencio Batista à l'époque. Car on le sait, ben, pour ceux qui ne le savent pas, c'est correct, c'est pas grave. Mais pour ceux qui le savent, Fulgencio Batista était le dictateur cubain à l'époque, avant que Castro prenne le pouvoir avec force et avec conviction, et avec vraiment d'une manière assez incroyable. Ouais. Une vraie marche contre le pouvoir de Batista qui l'a forcé à s'exiler en République dominicaine, comme on le sait. C'est ça. Fait que, t'sais, c'était une révolution dans le sens pur et dur du terme. Là, on va le dire, c'était une révolution. Tandis qu'à Allende, il faut faire attention. C'était une élection démocratique. Mm-hmm. C'était une élection, pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine, ou même dans l'histoire tout court, l'élection d'un gouvernement socialiste démocratiquement élu en octobre 70. Par pure chance, il a remporté 36 % des voix à Allende contre Eduardo Frei et d'autres... d'autres candidats qui étaient soit faisaient partie de la démocratie chrétienne ou du centre ou peu importe. Mais lui, il voulait vraiment faire la révolution par le haut, par le bas, c'est-à-dire nationaliser les industries états-uniennes et de donner le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Mm-hmm. Fait qu'il faut faire attention. C'était pas une révolution dans le cas d'Allende, mais vraiment la voie chilienne vers le socialisme en faisant des concessions et des compromis avec la bourgeoisie chilienne. Puis petite nota bene, encore une fois, ce qui est intéressant dans le cas d'Allende, c'est qu'il y a plusieurs auteurs dans les années 70 qui ont pu expliquer l'échec du socialisme chilien après l'arrivée d'Augusto Pinochet au pouvoir. Puis ils en ont conclu que Allende était rempli de contradictions, son régime. Parce qu'il négociait trop avec les États-Unis, il négociait trop avec les forces en place, puis il y a eu plusieurs problèmes à ce niveau-là.
Ouais. Tu l'as mentionné, c'est en grande partie tiré du mémoire que tu as produit ici à l'Université de Sherbrooke. Pour toi, là, ça a dû représenter quand même un défi que de désintellectualiser, déthéser un petit peu tous les éléments méthodologiques, disons, qu'on trouve dans un exercice comme un mémoire de maîtrise, puis là, pour le transformer en livre, justement, qui à la population générale. Est-ce que ça a représenté un gros effort, un gros défi de ton côté, ça?
Ben, je vais être honnête, pas tant. Ce qui a été plus un défi, c'est de leur déthéser, comme tu l'as dit, ou de le démaîtriser, on va dire, un petit jeu de mots, pas le fun, mais en tout cas, on se comprend là-dessus. Mais c'est ça, sans joke, ça a été le plus gros travail, ça a été de rajouter des trucs et de modifier certains aspects. La recherche, ça, il n'y a eu aucun problème. J'ai eu à faire peu de recherche. Peu. Rajouter un article ici, un article par là. Mais vraiment, le plus gros travail, ça a été de le modifier, puis de prendre le mémoire puis de le rendre plus accessible. Ça a été ça le plus gros défi pour moi personnellement.
Mm-hmm. Cuba, Chili et Québec, la consolidation de la solidarité anti-impérialiste 1959-1979. C'est publié aux éditions Septentrion et c'est disponible depuis fin septembre. Tu étais de passage au Salon du livre également. Vous avez peut-être manqué votre chance de faire dédicacer votre exemplaire, mais il est disponible dans les librairies ici à Sherbrooke. Marcel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Aucun problème. Merci à toi de m'avoir invité.